Bonus.
Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes. Je suis la lieutenant-commandeur Marina et je suis ravie de vous accueillir à bord de la station du Quadrant Pop, le podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de la dernière saison de Lower Decks. Sniff, sniff, est-ce la meilleure série Star Trek à l'antenne? Je le pense, mais nous sommes là pour en débattre avec Corée. Bonjour Corée.
Bonjour Marina.
Lower Decks a joyeusement bouleversé le format de drame de science-fiction d'une heure de la très très longue franchise Star Trek. L'accent n'est plus mis sur les capitaines nobles et leur courageuse équipe de passerelles partant en mission pour sauver l'univers. À la place, cette comédie de boulevard plonge les spectateurs dans les couchettes exiguës et les vies chaotiques d'un groupe d'aspirants excentriques qui parviennent à peine à survivre à leurs tâches quotidiennes. Engage!
For the last 5 years, they have thrilled us with their adventures, amazed us with their discoveries, and inspired us with their courage.
So ethical.
Their ship has journeyed beyond imagination. Her name has become legend.
Wow.
Her crew, the finest ever assembled.
Don't you give me that sarcastic Vulcan salute!
We have traveled with them. From one corner of the galaxy to the other.
Whoopsie.
They have been our guides, our protectors, and our friends.
Lower Decks! Lower Decks! Lower Decks! Lower Decks!
Now you are invited to join them for one last adventure.
Whoa, 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 is he talking about us?
Yeah, yeah, we're like, very important.
All
and
right.
This is our last mission.
Yeah, right, we're not done voyaging.
We aren't?
No, no way, man, we've hardly even cracked one quadrant yet. Come on, Loims!
Mariner! Mariner!
Ah! All right, party people, what's the bish? Man, another quantum fissure? This is like the third one this month! Boo, interdimensional portal!
What up, Cerritos? This is Captain Becky Freeman.
Make that one.
We're going on a little undercover mission.
Last.
Ah! Post-scarce society throwing out all their jewels and crap.
What a party.
Everything.
Oh yeah, that's the stuff.
This isn't the end of a story, it's the beginning.
Star Trek, Lower Decks.
Fraternize with Starfleet humans? Bah!
Wow, was that your girlfriend? Blue crawled up her boob window and died. Anyway, what are we drinking?
First test?
The right of unending pain!
Oh, unending pain?
Ah, this is gonna be Klingon as hell!
Working.
Donc, comme je vous le disais, je ne suis pas seule, mais avec Corée, un véritable équipage d'élite. Nous sommes deux, les duettistes de Star Trek. Et donc, elle est là une semaine sur deux dans le coin lecture, mais elle était aussi à Metz avec nous. Nous en étions ravis d'ailleurs. Ça me donne l'occasion de discuter de Metz et de vous dire que c'était extraordinaire. Corée, est-ce que tu es OK avec ça?
Ah bah bien sûr, de toute façon, j'étais en face de toi à table, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Eh bah écoute, j'espérais ne pas découvrir un mois après qu'en fait, je t'avais embêté toute la soirée et que à parler de références historiques, de littérature, du CID que j'avais réussi à placer au cours du podcast. Donc, non, bien sûr, moi, j'ai été ravie de te rencontrer in real life parce qu'il n'y a pas mieux que de se rencontrer lors de ces événements. Et donc, c'est Metz, qu'est-ce que c'était? Déjà des rencontres avec des êtres humains. Oui, on adore la science-fiction, mais on aime se rencontrer pour discuter de notre passion, Star Trek. Il se trouve que nous avons vu un super film sur lequel il y avait un consensus général, hormis une certaine personne, mais pour ça, il faudra écouter le podcast lorsqu'il sera diffusé. Nous avons vu le reboot de J.J. Abrams, nous avons pu en débattre longuement lors du premier podcast. Le lendemain, nous avons rebondi sur la bande dessinée qui est une espèce de préquelle. Et surtout, nous avons goûté à l'excellente hospitalité messoise, messine, je ne sais pas. C'est comme Klingon, Klingonné, Romulin, Romulané, on ne sait pas, messois, messin. Donc Corée, tu confirmes, un moment génial, on a bien mangé à ce restaurant végétarien, vegan ?
Je dirais végétarien, mais je ne suis pas sûre du tout. Déjà, on a réussi à embarquer un certain monsieur Corée très très viandard et qui a très très bien mangé à ce restaurant. C'était quand même absolument sympa. Et puis, ouais, puis je te dis, c'était vraiment... je crois qu'on peut rarement faire des soirées où on peut discuter entièrement et avec des avis différents de science-fiction et de Star Trek. Et c'était l'occasion. Et c'est vrai que pour ça, c'était absolument incroyable. On pourrait faire ça tous les samedis.
Bah, c'est clair, mais moi je me dis que de toute façon c'est le meilleur moyen de se rencontrer, de discuter et surtout le côté présentiel, de se voir, de se rencontrer, de discuter. Moi j'ai été charmée par tout. Entre le film, les moments, ça valait vraiment vraiment le coup de se lever à 5h du mat pour aller à Metz, qui est une ville fantastique. Là j'en rigole, mais franchement c'est une ville incroyable. Guigui a eu tout à fait raison de nous inviter. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé du film de J.J. Abrams ?
Alors moi, j'ai un rapport très très particulier avec ce film, parce que c'est le... Alors, pour tous ceux qui n'ont pas écouté tous les épisodes du Coin Pop, j'ai découvert Star Trek via mon grand-père. Et le film de J.J. Abrams, c'est le dernier que j'ai vu avec mon grand-père. Et après, on a pu eu l'occasion de regarder des films Star Trek ensemble. Et donc, c'était un petit peu l'occasion, si tu veux, de m'y remettre. Je pense que j'aurais pas revu si j'avais pas été avec toute l'équipe. Et donc, c'était génial parce que ce film-là, je l'avais pas vu au cinéma à l'époque. Je l'avais vu à la télévision avec mon grand-père. Et donc, c'était le côté un petit peu émotionnel parce que c'est grâce à cet homme que j'ai découvert Star Trek, et en même temps de pouvoir découvrir toute l'équipe du Cadran Pop, c'était quand même assez incroyable.
Alors je trouve l'anecdote là avec ton grand-père, d'avoir qu'il t'ait fait découvrir Star Trek. Tu avais quel âge quand il t'a fait découvrir la série ?
Bah, très petite, hein, vers 5-6 ans, tu sais. Mais il était, ouais, complètement ouais. Fondu de Star Trek. Et ma maman, pas du tout. Et donc, à chaque fois, elle m'envoyait chez mon grand-père. Du coup, elle pouvait sortir. Et lui, il enregistrait les épisodes et on regardait à deux.
C'est super. Franchement, j'adore. J'adore, c'est super tendre, et puis c'est comme ça en fait que les passions naissent, et c'est cool que tu aies adhéré.
Ouais, puis en plus pour rester plus sur le film, donc sur ce reboot de 2009, c'est bien ça, hein, oui. Je trouve qu'en plus c'est un bel hommage à la série, tout simplement, à la série originelle. Donc moi je l'aime bien, pour le côté affectif. Parce que aussi j'aime bien le voir, il est assez rythmé, donc il a des références parfois un peu sorties à la truelle, hein, on va pas non plus c'est pas non plus le il y a pas de film Star Trek parfait en fait, mais on est bien à le regarder. Et ouais, je pense que c'est un de ces quatre, faudrait que je montre aux ados.
Eh ben super.
Oui, parce que gros disclaimer, j'ai deux adolescents et aucun des deux n'a accroché à Star Trek.
Eh ben écoute, moi j'espère sincèrement que mon petit garçon va accrocher un jour. Déjà, il accroche beaucoup à Star Wars, mais c'est même pas grâce à moi. C'est tout ce qui se passe dans la cour de récré. J'espère, je croise les doigts. Il peut se passer plein de choses. Donc voilà, ben écoute, pour tes ados, ça peut changer.
Oui, peut-être.
Donc voilà, ben écoute, on va se lancer dans cette dernière saison de Lower Decks. Le titre de l'épisode, du premier épisode que nous allons commenter, Un, dos, tres, dos, cerritos, écrit par Aaron Burdett et réalisé par Megan Lloyd. Alors, petit résumé de la situation. Ils sont de retour, plus en forme que jamais, avec ce que je trouve un excellent épisode d'ouverture qui reprend les fils du dernier épisode de la dernière saison et commence à tisser quelque chose de prometteur pour cette ultime saison. Tour de table sans spoiler, à Corée, vu que nous sommes toutes les deux, je te passe la parole pour que tu me parles de cet épisode.
Eh ben écoute, moi, ce qui est génial avec Lower Deck, et surtout avec cet épisode-là, c'est que peu importe le nombre de temps que tu as passé sans regarder Lower Deck, tu vois de suite les enjeux, tu revois de suite tes personnages, et tu vois de suite dans quel état émotionnel ils sont, et dans quel état, je vais pas dire professionnel, mais si, quelque part, dans leur carrière, ils sont. Et ça te, en 30 secondes, tu comprends tout de suite ce qui se passe. Et puis après, les univers parallèles, c'est quand même assez sympa.
Alors, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent épisode, que tous les personnages, en fait, on rentre immédiatement dans le vif du sujet. Et moi, je trouve que voilà, les univers parallèles, les rencontres, le multiverse, pour moi, c'est plus un multiverse, en fait.
Ouais.
Bah, c'est dans la plus pure tradition de Star Trek. Et pour tout dire, rentrons dans la zone spoiler.
Red Alert!
Ok, bande de rigolos, c'est quoi la mission? Oh non, une autre fissure quantique! C'est la troisième ce mois-ci! Oh chiotte, le portail interdimensionnel!
Elles apparaissent avec une régularité statistiquement anormale.
Quelqu'un doit boucher ses nids de poules spatio-temporels, ou qui sait quel univers parallèle pourrait dériver dans notre dimension. Comment sont les niveaux de tachyon?
Sous le seuil de réaction, le réacteur de distorsion ne craint rien.
Oh wow, des dimensions alternatives? On pourrait tomber sur une bande de barjots avec des pieds à la place des mains, ou bien à la place des yeux, ou j'en sais rien, quelque chose de plus créatif que ça?
Capitaine, la fissure perd de son intégrité.
Alerte rouge! Sortez-nous de là tout de suite!
On est pris dans l'onde gravitationnelle!
À tout l'équipage, préparez-vous à l'impact!
On plonge tout droit dans cette gigantesque fissure!
Rapport de dommages?
RAS, capitaine. On dirait que c'était plutôt une grosse lumière qu'autre chose.
On a eu de la chance, mais évitons d'en abuser. Établissez une trajectoire de retour
capitaine,
à travers...
Capitaine, quelqu'un nous appelle.
Quelqu'un? Je pourrais savoir qui.
C'est le Cerritos.
Ah, bon sang. Saleté de fissures dimensionnelles. Sur écran.
Salutations, le Cerritos. Je suis le capitaine Becky Freeman. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire.
Warning. Nous commençons donc cette nouvelle saison avec une femme qui nous semble familière. Elle visite un vaisseau de collectionneurs qui est rapidement attaqué par des pirates Orion. Et en fait, c'est Tendi en mission sous couverture qui finit par révéler sa véritable identité dans toute sa splendeur de maîtresse de la constellation d'hiver, alors que son équipage monte à bord pour récupérer le butin. Cependant, elle est fidèle au principe de Starfleet et empêche ses amis Orion de sombrer dans leurs habitudes de coupeurs de gorge. Pendant ce temps, sur le Cerritos, les autres membres des ponts inférieurs ont leurs propres problèmes. Rutherford est très triste et tente de compenser le départ de Tendi par un surmenage frénétique. Boimler, notre cher Boimler, s'inquiète d'avoir atteint son apogée la saison précédente. Et Mariner stresse à l'idée de devoir encadrer de nouveaux enseignes. On a tous des problèmes. Hein. Donc, la mission de routine sur le pont nous introduit à l'arc narratif de la saison sur les nids de poules spatio-temporels. Mais cette opération qui nous semble a priori ennuyeuse prend une tournure très très étrange lorsqu'ils sont aspirés pour affronter un autre USS Cerritos dirigé par, est-ce qu'on est sérieux là, la capitaine Becky Freeman. Alors maintenant, Corée, qu'as-tu pensé de ce trou temporel, de ces accès, de ce multiverse en fait? Est-ce que tu as passé un bon moment, pour me paraphraser?
Sachez-le, dans la vraie vie, moi je serais un vrai Rutherford. C'est-à-dire que lorsque quelque chose ne va pas, je suractive. Donc c'était un vrai miroir pour moi. Après, non mais je te dis, ce qui est génial là-dedans, c'est que t'as juste, c'est un univers qui est changé à quelques pourcents, c'est ça? C'est, je me souviens plus exactement, 2,8%.
Oui, 0, oui. Oui, c'est ça, c'est tout petit.
C'est tout petit, donc c'est vraiment, et si on avait fait un léger choix différent dans notre vie, qu'est-ce qui serait passé? Et c'est super, parce qu'ils disent pas tout non plus, mais en même temps, on voit une évolution de personnages totalement différent, et je te dis, en quelques secondes, on comprend tout l'enjeu, et on comprend pourquoi on préfère le Cerritos original ou le deuxième dans certains cas, et on comprend surtout que cette équipe fonctionne très bien et que chaque membre est vraiment indispensable pour leur développement. Je sais pas si toi, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Alors moi, je trouve que vraiment, c'était un épisode rock'n'roll qui commence sur les chapeaux de roue et ça ne s'arrête pas pendant 25 minutes. En fait, on a des visions alternatives. Alors, effectivement, le décalage est minime, mais c'est franchement du décalage entre la barbe, les cheveux longs, les petits détails. Je trouve ça très, très drôle. Bien sûr, franchement, celui que je préfère, c'est Boimler. Il est très drôle. Mais effectivement, moi, je suis plus proche de Rutherford parce que moi aussi, quand il y a quelque chose qui m'inquiète, je suis tendance à être plus suractive et à beaucoup plus travailler. Donc, je me reconnais un petit peu, même si Boimler, c'est vraiment un des personnages principaux. Donc, en fait, c'est plutôt amusant. Ça donne un aperçu des vies telles qu'elles pourraient être, mais sans partir sur des divergences, comme parfois on change quelque chose et ça y est, le capitaine Picard est blessé au cours d'une mission et il redevient enseigne grâce à Q dans un des épisodes cultes de Next Gen. Donc franchement, là, je trouvais que c'était très, très drôle, très, très bien amené. Et on passe franchement un super moment.
Ouais, et puis en même temps, je sais pas si toi, t'as vu, mais l'évolution de Mariner, la deuxième. Le seul point, c'est que sa mère n'est plus là. Et tu vois, le changement total de personnalité, ça te fait poser plein de questions, que ce soit en bien ou en mal. Dans le sens où, est-ce que si elle refuse l'autorité, est-ce que du coup, c'est à cause de sa mère ? Bon, on a tous la réponse, hein, pour tous ceux qui ont un peu regardé Lower Deck. Mais du coup, en quoi elle peut se transformer sans le chapeautage, mais sans la présence et l'influence de sa mère. Et ça, c'est assez... ça fait réfléchir, enfin... Je sais pas, je te dis, c'est quoi ? C'est quelques lignes à peine dans le scénario et pourtant, tu peux cogiter aussi dessus. Tout en te marrant, hein, faut pas non plus... pensez pas que vous allez plomber l'ambiance en regardant le Lower Deck non plus, tu vois.
Ah non, mais là, y a beaucoup d'humour, des gags visuels. Enfin, je pense aux petits bras de Rutherford et y a des répliques, « What the Kinsey ?» Nous, on a le droit de le dire.
Peut-être.
Donc, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, non, les auteurs se sont complètement lâchés. On a l'impression que la dernière saison, déjà, ils se sont dit, allez, là, c'est la dernière saison, lâchons-nous, lâchons les chevaux, des petits gags. Et puis, ça ne s'arrête pas là, parce qu'avec les Orions, ce que j'adore, c'est toutes les nuances de vert qui sont utilisées pour les personnages. En plus, là, il y a des personnages bleus qui sont... Enfin, la prononciation dans la version anglaise est différente, c'est Orions. Voilà, donc c'est juste qu'ils se sont complètement lâchés dans les gags visuels. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de jurons que dans ces deux épisodes. C'est vraiment c'est sarcastique au niveau du salut vulcain, par exemple, de Becky, le double de Mariner. Il y a plein de petits easter eggs pour les fans. Donc c'est pour les fans d'humour, franchement, c'est drôle. On n'est pas parti sur un univers miroir où tout le monde est méchant. Là, c'est vraiment des petites imperfections. Donc c'est peut-être un des season openers les plus puissants que j'ai vu par l'humour. J'aimais bien aussi l'ouverture de la deuxième saison avec la tête géante là du second. C'était du pur Star Trek. Comme là, hein, c'est du pur Star Trek, mais c'est drôle. On passe un super, super moment.
Je crois que le Lower Deck va beaucoup manquer quand ce sera terminé.
Ouais. Il y a aussi quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. C'est quand, Boimler pense qu'il est... Ça, c'est un truc très anglo-saxon. On a dans ma boîte, il y avait quelqu'un qui avait été nommé marketeur de moins de 30 ans, 30 marketeurs sous les 30 ans, ou un truc comme ça. Donc, quand il est arrivé avec le magazine en disant c'est les jeunes de Starfleet qui ont moins de 30 ans et qu'il n'est pas dans le... Il n'a pas été retenu. Mais par contre, la petite Naomi Wildman qui a 10 ans, voilà, elle est dedans. Ça m'a fait beaucoup rire. Et puis voilà quoi, c'est et puis franchement là, les petits détails, les gags visuels, le générique là avec les qui change encore une fois, je trouve que
voilà. Et Tandy qui essaie d'être pirate et à la fois dans les clous de Star Trek, je trouve ça absolument génial. C'est vraiment toute la dualité ouais. de ce perso, et en même temps elle est tellement ingénieuse pour réussir à coller dans les deux trucs, c'est assez dingue. Ouais.
Ouais, c'est ça en fait. Déjà ça se voit qu'elle est dans les clous vu qu'elle empêche les Orions de tuer les collectionneurs, et elle essaie de rester dans les clous de Starfleet tout en étant respectueuse des traditions de sa famille, et à la fin quand sa sœur lui offre l'occasion de retourner à Starfleet, elle dit non, je dois régler les choses. Donc c'est du pur Starfleet aussi, hein. Elle ne s'enfuit pas, elle est là pour... elle assume. Et je trouve que c'est un personnage super attachant, avec des valeurs.
Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit que c'est une famille aimante. Tu sais, dans ce genre de cas, souvent dans les séries, tu as la famille qui rejette totalement la personne, tout ça, enfin tu vois, tout ce qui peut arriver. Et ici, tu vois que les parents accompagnent, c'est-à-dire que c'est entre tradition et modernité, quelque part. Je trouve ça génial de le voir en série sur Star Trek.
Ouais, mais la famille a toujours été importante, hein. On le voit avec tous les personnages, parce qu'il y a la famille, la famille qui nous est imposée, mais il y a aussi la famille qu'on se choisit, donc ça, c'est l'équipage, en fait. À chaque fois, on est là-dedans, donc... Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de références, et en même temps, il y a une petite tendresse. Moi j'ai vraiment une tendresse pour Tandy. On a envie de la suivre, et on a l'impression que ça va être un personnage central de cette saison. C'est un pur plaisir de la suivre. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le premier épisode ?
Non, je pense que ça continue, on va faire plus long que le premier épisode. Mais en même temps, ouais. ça va se terminer à nous deux en train de revoir le premier épisode et personne ne va aimer, donc on va...
Ouais, c'est ça.
Maison Tandy et Azur.
Ils se font appeler Azur maintenant.
C'est mieux que bande de gros losers bleus, j'imagine.
Puisque vous vous piratez les uns les autres, vous ne rapportez plus aucun butin au syndicat. On a à peine les moyens de nourrir nos blazards.
Cette guerre a été déclenchée par la maison Tandy. Les gens utilisaient des moyens non-Orion pour voler notre frégate.
C'est des conneries, c'est vous qui avez d'abord voulu nous la voler. Et ça se prononce Orion.
Ça suffit. Quand vous vous pillez les uns les autres, ça nuit à tous les Orions. Je vous ordonne de régler ça comme le faisaient les anciens, avec une course de voiliers à travers la nébuleuse d'Excelon.
Oh, mais...
Les Orions n'ont pas utilisé de voiliers depuis des centaines d'années. C'est pas un petit peu extrême?
Peu importe, on va assurer. J'ai fait de la voile solaire quand j'étais au lycée.
Pas à travers une dangereuse nébuleuse.
Les premiers à survivre à ce voyage et à atteindre notre trésor caché l'emporteront.
Bon, d'accord. Ça pourrait être amusant.
Ce ne sera pas une partie de plaisir. La maison perdante sera aussitôt exclue du syndicat et tous ses biens iront à la maison gagnante.
Quoi ?
Ah, génial ! Là, vous êtes cuite ! Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer à la fin de cette course !
Parlons maintenant du deuxième épisode. Fifty Shades of Green est écrit par Keith Fogelsang, réalisé par Bob Suarez. Et c'est vraiment un très bon compagnon du premier épisode de la cinquième saison Dos Cerritos. Je trouve que ce début de saison est très très fort, scénaristiquement et parlant, interprétation des personnages, du cast, le scénario... ça forme presque un arc, sans entrer dans les spoilers. Donc, je trouve que, voilà, au niveau humour, cet épisode est excellent. Donc maintenant, Corée, sans spoiler, que peux-tu dire de cet épisode ?
Mais c'est parfait, c'est fluide. T'as un petit lien avec l'épisode 1 et vous le saurez en écoutant la suite, mais sans être non plus monté à la truelle. Et puis on poursuit les aventures. C'est pas un épisode indépendant. C'est vraiment la suite du premier. On est bien.
Tu as très bien résumé le sans spoiler. Maintenant, entrons dans la zone spoiler.
Warning.
Shades of Green, en fait, offre davantage de moments de développement des personnages et je trouve une expérimentation très, très astucieuse des dynamiques entre les personnages. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une inversion des rôles entre Mariner et Boimler. Et en fait, sur Targalus 9, Mariner essaie vraiment de se montrer plus responsable, tandis que Boimler adopte une approche beaucoup plus décontractée dans son style de commandement. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Corée, mais moi, je trouve que c'était intéressant comme dynamique.
Ce qui est assez drôle, c'est que lorsqu'il se passe quelque chose, on voit que Marinor, même quand elle fait des bêtises, sait quand il faut faire intervenir un officier supérieur, chose que Baumler n'a pas du tout l'habitude de faire. Donc lui, il était plutôt en train d'essayer de cacher la bêtise, je mets des guillemets pour l'audiodescription. Mais alors que Marinor sait que quand il y a vraiment la vie de personne en danger, il faut vraiment appeler quelqu'un de responsable pour que tout le monde soit en sécurité. C'est assez amusant. En fait, je pense que Marinor va faire un très bon officier. Je sais pas toi.
Ouais, tout à fait. Et en fait, ce qui m'impressionne du côté de la writer room de Lower Decks, c'est que les scénaristes, en fait, quels qu'ils soient, ils gardent constamment une attention à ces personnages. C'est-à-dire que ils les font évoluer de manière naturelle. Ils ne les poussent pas à prendre des décisions qui seraient complètement hors de leur caractère. Et en même temps, ils les font grandir. Donc, je trouve qu'ils réussissent l'exploit pour un dessin animé d'apporter de la profondeur à des personnages, contrairement aux séries en live qui m'ont beaucoup déçu récemment, question développement. Ils prennent plus de risques avec un dessin animé. Peut-être qu'ils se disent que les audiences sont pas très bonnes. Donc là, je pense que Guigui va me tuer si jamais, au contraire, les audiences sont over the top. Mais voilà. Et surtout, l'association de deux personnages, par exemple, qui n'avaient jamais été associés avant, comme Rutherford et Clean, moi, je ne les imaginais pas partager des scènes. Mais là, la dynamique que les auteurs ont créée, bah, on a envie d'en savoir plus. Il y a des gestes attentionnés entre Clean et Rutherford. Et en fait, bah, Clean, elle est plutôt sympathique. Et là encore, les auteurs lui permettent de rester logique, mais on sent qu'il lui laisse comprendre et apprécier les subtilités de l'humanité.
Ah, mais j'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment où elle se rend compte qu'elle n'est pas dans son domaine, dans le sens où c'est une occupation qu'avaient Tandy et Rutherford. Et elle se rend compte qu'elle s'est un petit peu incrustée quelque part dans une routine qu'ils avaient à deux, et donc qu'il est en train de réparer ce vaisseau justement pour... Parce que Tandy lui manque, tout simplement, hein. On est d'accord dessus. Et elle veut bien faire, elle veut pas remplacer Tandy, mais lui apporter justement un soutien. Elle se rend compte qu'elle a été trop loin, donc du coup, elle refait. Enfin, c'est super bien fait, c'est très psychologique, en fait. C'est. Ouais.
Tout à fait. Et en fait, les évolutions des personnages, les arcs qu'ils ont, enfin le fait que en deux épisodes il y ait de la progression des personnages, une évolution, un changement de rôle, et qu'on ne soit pas perdu, que tout soit mené tambour battant en 40 minutes au total, que voilà. Et alors il y a quelque chose que j'ai adoré dans cet épisode, c'est la course poursuite dans les étoiles. À bord de ces voiliers de l'espace, ça m'a rappelé Deep Space Nine lorsque Sisko et Jake avaient construit un vaisseau et avaient fait ce périple à travers les étoiles à bord d'un voilier. Est-ce que tu avais vu cet épisode de Deep Space Nine?
Alors, je l'ai vu, et maintenant que tu en parles, je viens de voir l'image, en fait. Ça me rappelait quelque chose au moment du visionnage de l'épisode 2, mais sans me rappeler vraiment de l'épisode, mais là tu en parles, donc je visualise très bien. Et ben oui, c'est exactement ça. Et puis enfin les effets spéciaux sont quand même dingues. On en parle des effets sont dingues, quoi. Quand tu vois les voiles, enfin je veux dire les voiles, t'as l'impression que c'est vraiment calligraphié au millimètre près. On a limite l'impression d'y être, alors que c'est un dessin animé. Enfin, on va pas reprendre ce débat, quoi. Mais tu as de la 3D, tu as de la 2D, c'est assez... Et j'y connais rien, c'est ce qui est encore mieux, tu vois.
Pareil. Et c'est impressionnant, cette scène de poursuite dans les étoiles, comme quoi, enfin, il faut juste de l'imagination, de la créativité.
Et en plein milieu de cette course qui est magnifique, tu peux avoir une punchline, tu peux avoir un trait d'humour où t'es plus du tout saisi, tu repars dans l'action, tu te remets à rire parce que c'est des super moments. Enfin, je veux dire, cette course, elle est à la fois drôle, pleine d'enjeux, Enfin, c'est tout un... Franchement, ces deux épisodes sont extrêmement complets. J'ai pas d'autres mots. On est vraiment dans un... On n'est pas... Je sais pas si plus tard, on pourra dire que cette cinquième saison aura eu un arc au final. Mais même s'il n'y en a pas, ces deux épisodes-là racontent une belle évolution, une belle histoire. Et il y a un lien sans... Alors qu'on peut très bien les regarder de manière indépendante. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de Boimler qui essaie de se faire pousser un petit peu la moustache, là. Parce que son homologue avait un bouc. On voit que ça marche pas. Clairement, les essais capillaires, enfin les essais de barbe des hommes entre deux stades, ça marche jamais, on est d'accord.
C'est clair.
Et on sent qu'il veut garder sa personnalité, mais il veut quand même tester des choses de son homologue pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et il reprend son rythme. Si on n'a pas vu le premier épisode, bon, on comprend, on a un petit instant de flou, je pense, mais on comprend de suite l'enjeu, qu'il veut tester des choses, qu'il veut changer, qu'il veut prendre un nouveau départ, enfin pas un nouveau départ, mais qui veut prendre un nouvel élan. Et pareil pour Marina. Et par contre, si on a vu les deux épisodes l'un après l'autre, c'est totalement magique. Enfin, je veux dire, on est sur 40 minutes, on n'est pas sur des épisodes de une heure tels les autres, enfin, dont on ne citera pas le nom.
Mais c'est ça. Et c'est ça, c'est punchy, c'est mené tambour battant, il y a des super effets spéciaux, des effets visuels, des références. Parce que les Orions Bleus, par exemple, bah, c'est une grosse référence à la série animée des années 70, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais il y a tellement de références à Deep Space Nine, à Star Trek, à la série animée, à Next G, à Riker, à tout le lore de Star Trek. Et tout est là en 40 minutes entre deux épisodes. Enfin, c'est quand même incroyable. Ça prouve que tous les débats qu'on a eus précédemment, ouais, sur le fait que les scénaristes avaient un poil dans la main, mais là, ils ont tout mis dans Lower Decks. Enfin, les meilleurs auteurs sont là. C'est incroyable. Et puis au niveau de la réalisation, enfin, et puis la palette de couleurs. Moi, on va revenir là aux Shades of Green, mais c'est 50 Shades of Green, littéralement, quoi. C'est ces nuances de vert qui sont magnifique. Et donc, la résolution de l'épisode, retour à Star Trek pour notre cher et adorable petit Orion qui voilà, et en plus qui quitte sa famille le cœur meurtri parce qu'elle voudrait rester, on a oublié de le dire, sa sœur est enceinte et en principe elle devrait rester 14 ans à ses côtés, mais elle ne le fait pas. Et notre chère petite Tendi retourne à Starfleet, mais elle revient... On dit souvent qu'il faut se méfier des Grecs qui apportent des cadeaux, mais Tendi apporte des cadeaux à sa famille pour voilà, le fameux trésor qui va être incinéré. Et ben, Tendi demande à Starfleet de le donner famille.
Non. Elle ne le donne pas, elle fait du recyclage.
Elle fait du recyclage. Mais il y a beaucoup de tendresse dans ce personnage. Et la manière dont elle se comporte avec sa famille, sa sœur. Enfin, on a envie de faire partie de cette famille. Moi, qu'est-ce que je me suis disputée avec mes frères? Tu vois, enfin, c'est normal, tu vois, de se disputer, de vouloir engager une mutinerie contre sa famille. Moi, je ferais pareil.
Une coultinerie. C'était génial. Puis j'aime beaucoup l'épisode de The Vaisseau Pirate. C'est ouais, mais on n'a pas vraiment envie de tuer des gens, en fait. Mais on peut être pirate quand même.
Donc, du coup, pour résumer ces deux premiers épisodes, Corée.
Bah, écoute, moi, j'ai très envie de les revoir. J'ai adoré ces deux épisodes. Est-ce que ce sera mes épisodes préférés? Ce sera au moins dans le top 10, je pense. Je sais pas toi, mais c'était génial. Il y avait de tout. Pour moi, c'est exactement ça que doit représenter une série Star Trek. C'est que t'as pas besoin de fioritures, t'as pas besoin de code. Tu sens quand même que l'écriture des épisodes et du scénario est hyper carré, mais en même temps, ils sont amusés. Et ça, c'est cool. Et tu le sens.
Ouais, tout à fait. Ils ont tout mis dans ces épisodes, il y avait toutes les références et ils ont réussi l'exploit de le faire en 40 minutes pour les deux épisodes de lancement de la saison sur Paramount+. Donc moi je mets la note maximale pour ce début de saison, cette ultime saison qui commence sur les chapeaux de roue. Ça aurait pu être l'occasion pour les auteurs et pour les réalisateurs de se reposer sur les quatre dernières. Et au contraire, je trouve qu'ils envoient du lourd.
Oui, et en plus, j'ajouterais même, ça nous fait même pas peur pour les autres épisodes qui vont suivre. Parce qu'on peut se dire que c'est bon, tu vois, ils vont tout donner aux deux premiers. Et puis, en fait, non, on leur fait suffisamment confiance depuis 4 saisons maintenant pour se dire que tout va rouler pour toute la saison et qu'on va prendre du plaisir à regarder Lower Decks.
Et j'ajouterais même qu'il faut le regarder en version originale parce qu'il y a tellement de nuances qui sont drôles, comme les Orions et le nombre de jurons qui se sont multipliés. Là, ça bipait de tous les côtés. J'hésite à le montrer à mon fils parce que bon, bah, bref. Ça lui apprendra la vie.
J'étais très lâche sur ce coup-là, c'est-à-dire que j'ai regardé en VF quand toute la famille était autour, et une fois que tout le monde était couché, je l'ai vu en VO.
Ouais, voilà, faut le... Non, mais il faut le savourer, les dialogues, il faut juste en profiter. Tant qu'on a des super auteurs comme ça aux manettes et qu'ils offrent des épisodes hilarants. Donc, écoute, c'est bientôt le moment de conclure. C'est le moment... Reco ou promo, est-ce que tu as à faire la promotion ou à recommander quelque chose ?
Eh bien écoute, comme tu l'avais dit, une fois tous les 15 jours, je suis avec Manu et Marie-Paul au coin lecture du coin pop. Et dans pas très longtemps, puisque là je vois on est le 25, donc on est en fin de mois, le premier mardi du mois sur Choixpitre, je suis aussi co-animatrice et participatrice du coin lecture sur Choixpitre.
D'accord. Et est-ce que tu as un livre à nous recommander ?
Bien sûr, j'ai un excellent livre qui pourrait être très 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 Star Trek si on le voulait. C'est la dernière sortie de Katie Stewart dans la collection Récif d'argile qui s'appelle Foodistan. Et donc on imagine un monde qui n'a plus de rapport à l'argent, comme un certain épisode de Star Trek qu'on vient de visionner. Et par contre, les gens vont s'intéresser à la nourriture. Et donc, tu vas avoir différentes manières de vivre ta vie si tu décides d'être pastavore ou si tu décides d'être carnivore ou uniquement vegan. Et l'autrice va du coup s'amuser sur 150 pages, même pas, pour sur ces concepts de faire la société en fonction de la nourriture que l'on consomme.
Alors, c'est très amusant que tu cites Katie Stewart parce que je l'ai interviewée il y a 2 ans lors de la 2e édition de mon podcast professionnel qui s'appelle Future Proof, dans lequel on analyse les tendances tous secteurs confondus. Et là, on avait fait un focus sur la nourriture et on l'avait invitée justement spécialement pour ça, pour nous parler des tendances alimentaires dans le contexte du CIAL, le salon des tendances alimentaires auquel nous participons avec ma société Kantar. Donc voilà, je trouve ça amusant que tu en parles. C'est un personnage, elle est extraordinaire, elle est je trouve.
Extraordinaire.
J'adore son écriture.
Oui, oui. Pour moi, c'est une des autrices de SF françaises les plus sous-cotées.
Ouais.
Franchement, elle gagne à être connue, que ce soit dans les différents types de récits qu'elle développe, que ce soit dans l'écriture, et que ce soit la personne, parce qu'on est d'accord que c'est un amour.
Ah, mais c'est clair, adorable. Elle écrit très très bien. Elle est aussi psychologue clinicienne, parce que tous les auteurs que j'ai rencontrés sont tous slasheurs de quelque chose. Ils sont auteurs, plus ils ont leur profession. Et le seul que j'ai rencontré qui n'avait pas une profession à côté, c'était Pierre Bordage. Mais sinon, Katie Stewart, elle est extraordinaire. On mettra les livres qu'elle a écrits sur le site web du Quadrant Pop. Alors moi, de mon côté, j'ai envie de recommander Capitaine Flamme, L'Empereur éternel, la BD qui vient de sortir, par Sylvain Rimbert, l'auteur, et Alexis Talon. J'ai envie de dire Stallone, pour le dessin. J'adore, quoi. On retrouve, c'est le personnage de mon enfance. Donc, c'est Capitaine Flamme, oui, c'est toi. Avec ce générique. Le générique lu par Dominique Paturel, il est juste extraordinaire. Oui. Voilà, c'est... Donc, il y a tout le monde. Le Capitaine Flamme, l'androïde Mala, le robot Krag, le professeur Simon. Il y a même Joanne, qui ne ressemble pas du tout à une blonde qui est une demoiselle en détresse. Là, ouais. Franchement, je recommande la BD. J'ai remontré la série à mon petit garçon. Mm-hmm. Grâce à moi, il a découvert Goldorak et Capitaine Flamme. Et il adore et il chante le générique avec moi. Donc, on est deux. Voilà, à chanter le générique de Goldorak et Capitaine Flamme.
Mais au mien, j'aurais appris Jace et les conquérants de la lumière, si tu veux tout savoir.
Ah oui. Ah oui, non mais va, Jace.
conquérant de demain, va libérer le monde de la terreur des monstres plantes. Une force fabuleuse. On devrait faire une soirée karaoké, qu'est-ce que t'en penses?
Ah oui, exactement. Et surtout, chercher un sens à certains génériques. Parce que ouais, toi, Jace, conquérant de la lumière, tu dois conquérir. À un moment donné, j'aimerais bien savoir.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et en fait, il n'y a jamais eu de fin à cette série. Hein. Et quand on voit la conception, quand on lit ce qui était conçu au départ, et ça me fait penser, on n'a pas parlé de Game of Thrones. Il manquait la référence à Game of Thrones. Donc voilà, ça c'est une petite dédicace. Guigui va s'arracher les cheveux avec la fin de notre podcast. Mais voilà.
Heureusement qu'il a dit qu'on ne devait pas diverger.
Oui, c'est ça. Non, mais il est tombé sur la bonne personne, les bonnes personnes. Alors par contre, il va être content parce qu'à mon avis, ça va être moins d'une heure. Donc je propose qu'on conclue là.
Oui.
Donc chers amis, chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Ce sera de nouveau le commandant Geek et l'amiral Pedon aux manettes pour ce prochain Quadrant Pop. Au revoir, longue vie et prospérité.
Longue vie et prospérité.
Ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Land Rider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40000, Age of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Land Rider, L-A-N-D plus loin, R-I-T-E-R, sur vos plateformes d'écoute préférées.
Bonus.
Trax.